This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوبي.
From CNN Radio 7.
راديو داشا.
Brasil, cast the king.
Turkey, Fatora,
Slava, Россия.
Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde aujourd'hui au Burundi, journée de très grande tension encore, les explications d'Éric Valmire dans Partout ailleurs, un spectacle de marionnettes japonaises, c'est au théâtre Mouffetard, Stéphane Capron l'a vu et nous dira tout le bien qu'il en pense. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier sur l'impossible Brexit, mais tout de suite, direction l'Irak.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Bonsoir Vanessa Descoureaux.
Bonsoir.
Grand reporter à la rédaction de France Inter, vous rentrez d'Irak. Avant de vous suivre en reportage dans la première partie de l'émission, permettez-moi juste, Vanessa, deux questions sur le fait même d'être journaliste dans ce pays. Pays en guerre, l'un des plus dangereux au monde. Vous étiez sur certaines des lignes de front. Comment, tout simplement, avez-vous pu travailler ?
Sur ces lignes de front, il n'y a pas beaucoup de possibilités de travailler. C'est d'être embedded, embarqué avec les forces combattantes. Deux types de forces combattantes, les unités populaires, ce sont des bénévoles, des jeunes hommes qui se sont engagés spontanément il y a quasiment un an, au moment de l'avancée fulgurante et spectaculaire de l'État islamique en Irak. Ce ne sont pas les plus professionnels de la guerre, c'est ces jeunes hommes. Si on veut prendre moins de risques, on va dire, d'un point de vue sécuritaire, on part avec des plus professionnels de la guerre, les milices chiites. Il y en a à peu près 80 dans le pays. C'est un pays qui est abandonné dans les mains de ces miliciens, de ces combattants chiites qui sont aujourd'hui véritablement les vrais patrons d'un point de vue sécuritaire. C'est surtout pas l'armée qui n'est pas beaucoup plus solide aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un an au moment de sa reculade face à l'État islamique, notamment à Mossoul. Et juste une image pour montrer effectivement ce rapport de force complètement déséquilibré, c'est les barrages, les très nombreux barrages qu'il faut franchir pour quitter Bagdad et s'approcher de ces lignes de front. Eh bien, les miliciens chiites regardent à peine les militaires qui tiennent les barrages. Il y a un mépris incontestable et extrêmement palpable et visible dans ce regard-là et cet échange.
Et comme journaliste, ces miliciens vous font bon accueil, si j'ose dire ?
Ça dépend des milices, ça dépend de leur rapport, on va dire, avec l'Occident au sens large. Moi, j'ai pas eu de problème parce que j'ai une nationalité qui pose moins de problèmes dans cette région et dans ce pays en particulier. Je plains beaucoup plus mes confrères américains avec certains miliciens. Moi, à titre personnel, ça s'est plutôt bien passé avec ces miliciens. Ouais.
Et alors, Bagdad, vous l'avez cité, la capitale, est-ce que vous vous êtes senti là plus en sécurité ?
Plus en insécurité à Bagdad.
C'est l'inverse.
Oui, plus en insécurité pour une chose très simple, et on va en parler dans ce reportage, c'est qu'il y a de plus en plus, les attentats, la voiture piégée reprennent depuis 2 ou 3 semaines, ils reprennent véritablement. C'est la roulette russe, c'est le tirage au sort, disent les Irakiens. On traverse la ville, me disait un Irakien, on traverse la ville en fuyant la mort, pour vous donner une idée. On ne sait pas par définition quand est-ce que ça va exploser. Moi, je suis restée une semaine, un attentat à peu près tous les 2 jours que j'entendais. Ça ne veut pas dire dans toute la ville. C'est une ville tentaculaire, très grande, Bagdad. Donc, de ce fait-là, j'aurais tendance à dire que moi, j'étais plus en insécurité à Bagdad pour cette raison-là, parce que c'est un fait que je connais moins, en fait, c'est ce risque d'attentat à répétition.
Ouais. Et parlez-nous juste de ce quart d'heure, Vanessa, dans les rues de Bagdad.
Travailler dans la rue à Bagdad est extrêmement compliqué. On reste un quart d'heure, pas plus. Khalas, comme dit le fixeur qui nous accompagne, parce qu'il faut être très discret, il ne faut pas se faire repérer.
Au-delà de 15 minutes, ça devient dangereux.
Ça devient dangereux, on est repéré et on commence, et moi ça m'est arrivé, il y a des gens autour de nous au téléphone qui tiennent des conversations qui ne sont pas des conversations courantes et communes, qui ressemblent plus à des conversations codées. Et dans ces cas-là, l'exemple en particulier, c'est le traducteur qui me dit « Oulala, là il vient de dire « Envoie-moi un marié ». Ce qui, dans le langage bagdadi, veut dire « envoie-moi un kamikaze ». Donc là, on part. Vite.
15 minutes. Allez, début de ce reportage, Vanessa, dans la ville d'Al-Alam. C'est une ville libérée après un an d'occupation par l'organisation terroriste État islamique.
Et à l'entrée de la ville, on arrive tout d'abord à un immense rond-point où on voit des minibus qui patientent. Le temps, en fait, pour que les chefs de famille s'enregistrent pour se faire connaître. Il y a devant eux un représentant du ministère de l'Intérieur. Il est là pour répertorier ces familles qui reviennent. Ce policier est là, dit-il, surtout pour arrêter ceux qui ont collaboré avec Daesh, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a eu des collaborateurs. Il a déjà arrêté 13 personnes, dit-il. Pour le reste, ce sont des familles paisibles qui rentrent après plusieurs mois d'éloignement. Il faut donc passer ce rond-point pour entrer dans cette ville agricole. D'ailleurs, quand on parle de ville, on va être très clair, c'est plutôt un regroupement de plusieurs hameaux. Al-Alam est surtout connue pour être la voisine de Tikrit, la ville de Saddam Hussein. Al-Alam, c'est juste en face de Tikrit, de l'autre côté du fleuve Tigre. Et c'est dans cette ville que nous rencontrons Oum Kosseï, une femme, ce sera d'ailleurs la seule de ce reportage, une juste en quelque sorte, car elle a caché des soldats chez elle. Autrement dit, elle a caché les cibles les plus recherchées des terroristes. 6 jeunes militaires doivent la vie à cette femme d'une 60aine d'années.
6 soldats ont passé 15 jours chez moi. 15 jours, je les ai gardés à la maison. Et lorsque Daesh a lancé son offensive, j'ai loué une voiture, on est parti ensemble pour Kirkouk. Et je les ai déposés là-bas. Si on avait découvert ça, moi, mes fils, mes filles, on nous aurait tous exécutés. Je n'ai pas dormi pendant 15 jours, je les ai surveillés. On nous a dit que Daesh allait entrer. On n'avait plus le choix, on n'avait pas d'armes. L'État islamique était entré le matin dans notre quartier. Ils ont annoncé à tous ceux qui cachaient des soldats irakiens qu'il fallait les présenter. Alors, pour qu'ils puissent franchir les barrages, j'ai fait falsifier des cartes étudiantes en utilisant le nom de mes enfants. J'ai 6 enfants, donc j'ai fait 6 cartes. Pendant la journée, j'ai caché les soldats et le soir, on allait dehors pour les faire répéter avec leur nouvelle identité.
Nous sommes dans le centre-ville d'Al-Alam. Désormais, il y a encore des inscriptions écrites par les terroristes de l'État islamique, des messages qui ont été laissés sur les murs des maisons, sur les façades, quand ils réquisitionnaient ces demeures. Les rues, elles sont surtout parcourues par des miliciens chargés de la sécurité. Il y a quelques civils qui viennent retrouver leur vie d'avant. Tous les commerces n'ont pas encore rouvert. La moitié seulement des familles est revenue. Mohamed El-Djoubouri est avocat. Il est parti en novembre de son village et il est rentré il y a quelques jours seulement. Il nous raconte comment les djihadistes se sont implantés ici.
Au début, il y avait un pacte de non-agression entre nous. Mais ils ont violé ce pacte. Les premiers jours, la vie était presque normale. Le premier groupe arrivé ici était d'une certaine façon plutôt correct. Et puis ce groupe est parti, la relève est arrivée, et ces gens-là étaient bien pires, très stricts. Il y a eu beaucoup de souffrance, d'oppression de leur part. Ils nous arrêtaient, ils nous fouettaient, ils ont torturé, exécuté des gens. Nous avons refusé de prêter allégeance, d'obéir et d'être fidèles. Les plus mauvais, c'étaient les membres de la tribu Al-Bouajil, c'est-à-dire celle à laquelle appartenait l'ex-président irakien Saddam Hussein.
Ensuite, nous rencontrons un profil étonnant, un cher qui appartient à une tribu très, très ciblée par Daesh. Et pourtant, ce cher est resté pendant toute l'occupation du village par les terroristes. Alors, à un moment donné, s'est posée la question inévitable de la collaboration avec Daesh. Le cher s'est indigné. Il a expliqué qu'il s'était débrouillé, qu'il avait envoyé sa famille dans une ferme, loin du centre-ville, et qu'il ne quittait que très peu son refuge.
Malgré la liberté de mouvement, sous Daesh, on était comme des détenus dans une grande prison. Je transmettais des informations pour les unités de sécurité irakiennes. Il y avait du réseau la nuit, donc on a pu avoir des communications. L'armée pensait qu'il y avait des mines partout à l'entrée de la ville, mais ce n'était pas le cas. Donc une fois bien informés, les forces de sécurité ont pu rentrer très rapidement dans la ville et la libérer.
Et comment ça se passe à l'extérieur de cette ville d'Al-Alam, Vanessa? Est-ce que c'est sécurisé également?
Alors nous partons en voiture avec des combattants des unités populaires. Pour le voir, ces combattants, je l'ai dit en début d'émission, ces bénévoles qui ont rejoint le front pour riposter à l'avancée de l'État islamique. On va pas très loin, à 5 km, guerre plus, dans un hameau poussiéreux, sablonneux. Et ce jour-là d'ailleurs, pour la petite histoire, tout était orange, le sol avec le sable, mais le ciel aussi, avec une tempête de sable qui était en préparation. C'est toujours spectaculaire. Et bien là-bas, dans ce village, les combattants sont beaucoup plus attentifs que dans la ville voisine d'Al-Alam. On pense d'abord à Duzel face à la journaliste étrangère devant eux. Et puis ensuite, les combattants nous expliquent qu'en fait, c'est une zone stratégique parce qu'elle est coincée entre deux secteurs que Daesh est en train de perdre. Du coup, pour fuir, il faut passer par là. C'est la seule voie de passage pour partir. Et la semaine passée, 4 djihadistes ont été tués ici, explique un milicien de l'organisation chiite Badr. Il s'appelle Mogad Awas.
On est comme des barrières sur leur chemin, car on a fait des points de contrôle sur le Tigre tous les 500 mètres. On met nos checkpoints, les unités de sécurité sont équipées de jumelles à vision nocturne. Malgré leur mouvement, où qu'ils soient, on peut les repérer facilement. On est équipé pour ça. Lorsqu'on est sur le point d'arrêter des terroristes de Daesh, quand ils tombent entre nos mains ou celles de l'armée, ils se font sauter avec des ceintures d'explosifs ou avec des grenades. Dans la plupart des cas, cas, ils sont en groupe. Il y a jusqu'à 10 personnes. Ils se réunissent autour du porteur de la ceinture d'explosifs et ils se suicident.
Et juste après cette interview, on remarque toujours dans ce village donc des hommes à moto, cagoulés, téléphone à la main pour l'un et geste assez menaçant pour l'autre.
On a reçu un appel, un ordre pour nous demander de se retirer tout de suite de ce village.
Voilà donc ce qui arrive dans des zones que l'État irakien dit avoir pourtant libérées. Il faut juste constater que les forces de sécurité doivent détaler au plus vite.
Impressionnant. Nous quittons le nord de l'Irak et la région de Tikrit. Pour aller maintenant, Vanessa, à Bagdad, la capitale, pas de combat dans la ville, mais des attentats, vous le disiez, qui ont repris de plus belle ces dernières semaines. D'abord, Vanessa, on s'arrête avec vous dans une mosquée du sud de Bagdad, mosquée qui abrite des réfugiés.
Ils viennent de Ramadi, c'est l'un des fronts les plus sanglants en ce moment en Irak. Ramadi, c'est une grande ville à l'ouest de la capitale, c'est le chef-lieu de la province qui s'appelle l'Anbar, c'est une province sunnite et c'est aussi la plus grande du pays. Elle représente à elle seule un tiers du territoire et surtout, elle a une immense frontière avec la Syrie. Voilà pour mieux comprendre les enjeux de cette province et de cette ville de Ramadi. La population là-bas est donc sunnite. Elle cherche à fuir les combats. Elle se réfugie donc dans la capitale, à majorité chiite. Du coup, ces réfugiés sont très mal vus, accusés même d'être des complices de Daesh, des agents infiltrés en quelque sorte dans la capitale. Car il faut reconnaître quand même une chose, c'est que depuis l'arrivée massive de ces réfugiés, bien c'est vrai que les attentats ont repris à Bagdad. Ça, c'est le constat brut et on n'en tire aucune autre conclusion et aucune conséquence. Mais pour un réfugié comme Nadim, il est policier à Ramadi, eh bien ces accusations sont tout simplement insupportables.
J'ai été blessé à la tête, à l'épaule aussi. Daesh a tué 4 de mes frères. Le groupe nous a fait partir. Il a fait exploser notre maison. On n'a plus rien là-bas. Quand on dit que les gens de Ramadi soutiennent Daesh, on est triste. Tu combats, tu perds tout et le gouvernement ne fait rien pour toi. Il y a des quartiers entiers, je ne peux pas aller. Il y a des milices partout.
Alors ces réfugiés vivent de l'aide d'autres citoyens sunnites, on en a vu venir déposer du lait, de la nourriture, des vêtements. Ils ne reçoivent aucune aide de l'État. La mosquée où nous sommes allés n'a reçu aucune visite officielle, rien comme si les gens étaient abandonnés. Et pourtant, ces Irakiens sont en danger, clame le cheikh Akram Abdelhaimi. Il est l'imam de la mosquée qui les accueille.
Une famille de déplacés a été tuée dans le quartier où elle s'est réfugiée. Cette famille était opposée à Daesh. 8 personnes sont mortes. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a des menaces venant de miliciens chiites. Ils disent que ces déplacés doivent être arrêtés pour venger des soldats chiites assassinés, comme si c'était eux les criminels. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui ont fui la mort, les guerres. Ils sont venus dans des quartiers paisibles, enfin plus paisibles que les leurs. Donc on a peur de cette réaction de la part des gens.
Voilà, ça c'est un bruit effrayant.
Effrayant.
Voilà, c'est celui d'une voiture piégée qui explose dans un quartier de Bagdad. En l'occurrence, c'était un quartier chiite. Un jour d'ailleurs où il y avait un pèlerinage chiite dans ce quartier. Longue colonne de fumée qui se dégage. Vous imaginez bien des gens qui courent spontanément pour proposer leur aide. Et les sirènes des ambulances qui ne tardent pas à arriver. C'est un son banal, ou presque, à Bagdad. C'est incroyable de dire ça, mais il faut bien comprendre que ça fait partie de la capitale irakienne. Et depuis des années... Effectivement, car le long du Tigre, la vie se joue à la roulette russe. C'est comme ça que résume Taha Karim, c'est un journaliste irakien.
Malgré le Daesh, malgré le connard qui prend de l'islam comme couverture, la vie se continue toujours. J'ai vu qu'il y a assez de ne pas avoir peur de la mort, ni ici, ni dans un autre endroit à Bagdad. Les gens, en général, ils meurent en hasard. À Bagdad, on vit en hasard. Je ne cherche pas la mort, bien entendu. Je cherche la vie, les belles vies, les meilleures vies. Pour ça, je suis là. Je suis là pour mettre un peu de lumière dans les rues noires.
Et ces attentats, Vanessa, qui reprennent à Bagdad, ça veut dire que l'organisation État islamique est bel et bien dans la capitale ?
Ce fut avant Al-Qaïda, c'est Daesh aujourd'hui. Ce sont des extrémistes nourris par plus d'une décennie de guerre, de chaos, de haine de l'Occident aussi. Ce sont des fondamentalistes qui sont nés de la cruauté de Saddam Hussein et de l'occupation américaine de l'Irak. Et leur seul but, c'est de déstabiliser un pouvoir défaillant, c'est-à-dire le gouvernement irakien défaillant. Ce gouvernement, mais qui tente ces derniers temps quand même, malgré tout, de donner des signes de contrôle, de reprise de la situation. Par exemple, quand les terroristes ont saccagé des pièces archéologiques dans le musée de Mossoul, réponse des autorités, on rouvre le musée de Bagdad, celui qui avait été pillé d'ailleurs au moment de l'occupation américaine. De la même manière, quand les terroristes sont menaçants et qu'ils se battent dans des villes à une trentaine de minutes de voiture à peu près de Bagdad, pas plus, la réponse est « Ok, nous on n'a pas peur, on lève le couvre-feu à Bagdad ». Encore un dernier exemple, on va nommer une femme maire de la capitale. Une femme, c'est évidemment une première et c'est même très audacieux dans ce contexte. Donc, voilà des signaux renvoyés pour répondre au coup médiatique de l'État islamique qui, par ailleurs, a perdu du terrain quand même en Irak depuis son avancée d'il y a un an. Il en gagne en Syrie, mais il en perd en Irak. Et surtout, l'organisation est à un moment déterminant de son histoire récente, car il est sous le coup, cette organisation, elle est sous le coup de divisions internes, explique Hicham El Hachemi. Il est spécialiste des mouvements armés en Irak, et donc particulièrement de cette organisation dirigée par le calife autoproclamé al-Baghdadi.
L'organisation idéologique Daesh est divisée en trois parties extrémistes et chaque branche considère les autres comme des impurs. Ça pourrait arriver que ces branches se battent entre elles. Al-Baghdadi a déjà remarqué ce phénomène très tôt. Donc il avait promulgué une fatwa qui considère que ceux qui alimentent les rivalités, que ceux qui fissureraient l'organisation, que ceux qui la diviseraient en plusieurs parties, ces dissidents-là seraient tués par lui-même. Et il l'a déjà fait d'ailleurs, avec quelques-uns qui voulaient se démarquer, notamment le cheikh Abdelkarim al-Jdoubouri. D'autres membres de groupe ont été tués par al-Baghdadi parce qu'ils étaient si extrêmes qu'à leurs yeux, même le calife était impur.
Pour conclure ce reportage, Vanessa, il faut quand même parler du poids des milices chiites dans la reconquête du territoire.
Militairement, l'État irakien, c'est très clair, s'appuie sur ses milices, c'est incontestable, on l'a évoqué au début de cette intervention. Les plus puissantes de ces milices comptent plusieurs milliers de combattants, et évidemment, celles-ci ont une aile politique afin d'en tirer un gain. C'est le cas de l'organisation Badr. Nous rencontrons l'un de ses responsables, il s'appelle Moin al-Kademi, grand numéro d'hypocrisie. Quand on lui demande quels sont les liens de son mouvement avec le tuteur iranien, réponse plus qu'alambiquée pour être poli.
Aucun pays arabe ne souhaitait nous accueillir en tant qu'opposants à Saddam. Ni le Koweït, ni l'Arabie Saoudite, aucun autre pays arabe. L'Iran, comme la Syrie, nous ont ouvert leurs portes. Il était normal que l'opposition à Saddam Hussein s'y soit installée, on était les bienvenus. Et puis, on est devenu une organisation politique. On a commencé la construction de l'État. Les relations étaient excellentes avec l'Iran parce que le pays a fait beaucoup pour nous, parce qu'après la chute du régime dictatorial, il soutenait le changement en Irak. Mais il n'y a pas de relation financière entre nous. Maintenant, on n'a plus besoin de l'Iran. Maintenant, on a notre pays, nos richesses, nos compétences. On n'a pas besoin de l'Iran. L'Iran est en crise économique et c'est nous qui devrions l'aider. Ils ont désormais un problème. Il faut être reconnaissant et leur retourner ce qu'ils ont fait de bien pour nous.
Alambic, et vous le disiez, Vanessa. Alors, pour être très complet sur ce reportage que vous ramenez d'Irak, je vous invite, amis auditeurs de France Inter, à aller faire un tour sur le site internet de France Inter, www.franceinter.fr. Tous les reportages de Vanessa Descoureaux y sont regroupés, avec aussi des galeries de photos, une carte interactive. C'est un très beau travail de la rédaction multimédia d'Inter. Et puis, je précise qu'on vous retrouvera, Vanessa, dans l'émission ces prochains jours, avec une autre série de reportages, un feuilleton, des choses vues, des choses entendues en Irak. Merci beaucoup, Vanessa, d'être passée dans Un jour dans le monde. Il est 18h34, à suivre le Burundi dans Partout ailleurs avec Eric Valmire. Vous écoutez Inter et c'est une très bonne chose. Match Speaking Machines, direction le Québec avant le Burundi.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Un jour dans le monde, reportage. Pour la première fois, le Canada a commémoré le 30 avril dernier l'arrivée des Boat People en provenance du Vietnam avec la journée du parcours vers la liberté. C'est une façon de rendre hommage aux 60 000 Vietnamiens arrivés en terre canadienne après l'invasion du Sud-Vietnam par le Nord. Hommage aussi à l'accueil que leur ont fait alors les Canadiens. Une ouverture exceptionnelle à mettre en regard avec la situation actuelle des réfugiés syriens qui, eux, cognent en vain aux portes du pays. Le reportage de Pascal Guéricola.
À bord de bateaux de pêche, de chaloupes, de cargo, des dizaines de milliers de Laotiens, de Vietnamiens et de Cambodgiens ont tout risqué. Comme Phan Dao, parti avec sa famille pour aboutir dans un camp à Hong Kong. C'est là qu'il a rencontré des représentants canadiens qui leur ont offert une seconde chance.
Je pensais que j'arrivais dans un désert. Depuis l'avion, c'était blanc partout. En fait, c'était seulement de la neige. Je suis arrivé ici avec zéro sou dans ma poche. On a vécu depuis 40 ans et quand même, ça va, on vit bien.
Propriétaire depuis 32 ans d'un restaurant vietnamien à Québec, M. Dao se souvient encore de la gentillesse des Québécois à son arrivée. Entre 1979 et 1980, des centaines de groupes de citoyens, souvent appuyés par des organisations religieuses, ont assuré la subsistance de réfugiés, se sont chargés de leurs formalités administratives. Comme Madeleine Leblanc, qui a mis en place une association pour parrainer des enfants Boat People, arrivés seuls au Canada. Installée au bord du Saint-Laurent, elle se souvient de cet élan de générosité vers les réfugiés.
Je pense bien que c'est un sentiment d'humanité. Il y avait le sentiment de sauver une vie, le sentiment d'ouvrir à la vie aussi des enfants qui ne pouvaient pas, dans les camps de réfugiés, étudier, poursuivre des études. Les jeunes qui sont restés là-bas, il y a toute une génération qui a été, en fait, gaspillée.
De nombreuses familles ont élevé quelques années ces enfants comme si c'était les leurs. Les gouvernements canadiens et québécois ont aussi contribué à l'arrivée de dizaines de milliers de Boat People. Lorsqu'il a fui le Vietnam, Thu Nguyen n'avait que 16 ans. Avec sa mère et ses 4 frères et sœurs, il a passé 7 jours et 7 nuits sur une embarcation surchargée.
Quand on a traversé l'océan, mais c'est sûr et certain qu'on a apporté quand même un peu d'argent, mais on s'est fait confisquer par les pirates. Parce qu'on a été arrêté par les pirates. Donc, vraiment, quand je suis arrivé au camp de réfugiés, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien sur nous, même pas de chemise. J'avais juste un short. Pendant la première année, quand je suis arrivé, je faisais encore des cauchemars quasiment tous les soirs. Le fait d'avoir traversé l'océan puis d'avoir vécu des expériences horribles, d'avoir faim, surtout soif, sur le bateau pendant 7 jours.
Aujourd'hui, Thien Nguyen dirige une usine à Québec. Ce jour-là, il noue des contacts dans un hôtel chic de la ville. Comme lui, des dizaines de milliers de Vietnamiens, de Cambodgiens participent depuis plusieurs décennies à l'essor du Canada. Une situation bien différente de celle plus récente des réfugiés syriens ou irakiens en quête d'un nouveau pays. Toujours très impliquée auprès des réfugiés, Madeleine Leblanc dénonce la complexité administrative du gouvernement canadien.
Il n'y a pas d'exception. Il n'y aurait même pas d'exception pour sauver une vie, je pense. C'est incroyable comment on déshumanise les relations avec les autres. Les vérifications, la peur d'accueillir quelqu'un qui va être subversif, être le frère, être la sœur d'une personne d'une autre couleur, d'une autre langue, d'une autre nationalité, me semble que c'est beaucoup moins présent.
Depuis le début de la crise, moins de 1300 réfugiés syriens ont été accueillis au Canada, contre 60 000 Indochinois arrivés entre 1979 et 1980.
Pascal Guéricola et la question des réfugiés, on la retrouvera la semaine prochaine dans Un jour dans le monde. Il est 18h42 et direction donc maintenant le Burundi. C'est partout ailleurs. Bonsoir Eric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Le Burundi avec encore des moments très chauds aujourd'hui.
Une situation en tout cas incertaine à l'heure où l'on parle. Ce matin, un ancien chef d'état-major, ex-chef des services secrets Burundi, le général Godefroy Nyombare, annonce sur la radio privée Inzangarinyiro la destitution du président Pierre Nkurunziza. Le président, lui, était en Tanzanie ce matin pour un sommet très attendu de chefs d'État autour de la crise qui secoue le Burundi. Alors, deux, trois rappels quand même, Nicolas, pour comprendre le contexte. D'abord, le Burundi, région des Grands Lacs, qui a subi de plein fouet les tensions interethniques rwandaises, c'était juste à ses frontières, des tensions qui se sont déplacées sur les terres du Burundi au lendemain du génocide, et déjà, Burundi-Ouganda était déjà plus ou moins impliqué dans les affaires du génocide. Avec en prime aujourd'hui, les ravages de la guerre du Kivu qui pèse sur ses frontières. Conséquence, une guerre civile de 13 ans qui a tué au total 300 000 personnes. Sous l'égide de la communauté internationale, un processus d'élection s'est mise en place dans les années 2000, avec un régime parlementaire en 2005. Les observateurs internationaux ont considéré le scrutin comme exemplaire, mais au Burundi, les élus ont dénoncé le fait que les élus étaient des criminels avérés qui avaient bénéficié d'un système d'impunité prescrit par le droit international. On n'était donc pas sur des bases très solides. Mmh. En 2008, les accords de paix d'Arusha, deux opposants historiques, s'entendent, le président Nkurunziza et Agathon Rwasa, système politique fondé sur le souci de l'équilibre ethnique. 2010, élection présidentielle, climat de terreur, Nkurunziza est élu dans un fauteuil, élection suivie d'un climat insécuritaire. Sous pression, les partis d'opposition se retirent de la vie politique. Certains leaders partent même en exil, s'estimant menacés par les services secrets et la police. Juin 2015, le mois prochain, nouvelles élections. L'opposition s'est à nouveau structurée en vue de cette échéance. Des partis ont tenté de s'organiser, des jeunes ont lancé des mouvements, mais voilà que le président Nkurunziza annonce vouloir briguer un troisième mandat. C'est contraire aux articles de la Constitution. Et donc, depuis le 26 avril, manifestation monstre dans les rues de Bujumbura, violente répression policière, l'armée se pose en arbitre, l'opposition dénonce l'abus de pouvoir de Nkurunziza, une opposition incarnée par le rival de toujours, Agathon Rwasa.
Le droit de manifester, dit-il, est reconnu par la Constitution. Et ceux qui protestent dénoncent le mépris démontré samedi par Pierre Nkurunziza et son parti envers la Constitution. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit dirigé par la volonté d'un seul parti, le CNDD-FDD.
Première conséquence, les vieilles tensions interethniques Tutsi ou Hutu-Tutsi d'hier sont réactivées par le climat délétère qui règne alors. Les radios publiques sont fermées et Alexandre Julenko, président de l'Union des journalistes burundais, déplore ce musellement. Il voit même les symptômes d'une situation pré-génocidaire.
C'est très regrettable qu'on en arrive là. Mais il est clair que on veut bien. Il y a quelque chose qui se prépare. On veut préparer certainement des massacres à huis clos. Si on ferme tous les médias, et quand on entend déjà qu'il y a des gens qui sont qui ont des armes, qui ne sont ni policiers ni militaires, qui maintenant sont en train d'être déployés à travers toute la capitale, vous comprenez très bien le risque que nous courons.
Les manifestations redoublent d'intensité et le président, en officialisant sa candidature, affirme qu'il est dans le droit constitutionnel. Son premier mandat, il l'avait effectué sous le coup d'une nomination parlementaire. Ce n'est pas la même chose et non par le prisme d'un scrutin. Il s'est adressé à la nation la semaine dernière.
Je voudrais assurer à la communauté nationale et internationale que si je suis élu, ce sera mon dernier mandat, comme il est stipulé dans la Constitution.
Explication non convaincante. Toujours le dialogue de sourds jusqu'à Paris sur le plateau de France 24 entre des opposants et le pouvoir incarné par l'ambassadeur en poste en France.
Pourquoi je pas laissé le choix? Qu'est-ce que vous voulez?
Laissez-moi parler d'abord.
Tu ne m'as pas laissé aussi? Il fallait me laisser aussi m'exprimer.
À Bujumbura, manifestation, désaffrontement et une réunion d'urgence aujourd'hui en Tanzanie avec les chefs d'État voisins qui n'aura finalement pas lieu. Nkurunziza arrive sur place, mais au même moment au Burundi, son ancien chef des renseignements annonce à la radio sa destitution. Chant de liesse dans la rue toute la journée. Personne ne peut ignorer la société civile. Un communiqué de la présidence du Burundi dément le coup d'État. Mais l'armée remet en service la principale radio qui avait été coupée à la mi-journée. Des militaires putschistes circulent dans les rues. Il règne une grande confusion. Le sommet de Tanzanie condamne la tentative de coup d'État. L'aéroport est fermé ce soir. Des événements suivis en temps réel par tout le continent africain qui imagine un scénario burkinabé bis à l'image du rappeur sénégalais David Awabi. La société civile africaine est en train d'émerger.
Il y a des réseaux sociaux, il y a des SMS. On ne peut plus mentir au peuple. Ceux qui font la donne, c'est des jeunes qui ne sont pas dans les partis politiques. C'est les jeunes, c'est 60% de nos populations, en règle générale, en moyenne, dans nos pays. C'est eux qui font les élections. Donc, si on ne répond pas aux aspirations de ces jeunes, eh bien, ils vont changer pour mettre quelqu'un qui répond à ces aspirations. La démocratie n'est pas un phénomène qui vient de l'Occident, c'est un phénomène qui est intégré dans chaque société, donc dans les nôtres aussi. Et donc on a besoin de démocratie pour que nos systèmes évoluent. Il faut qu'il y ait alternance et que chacun challenge l'autre pour que voilà nos sociétés se développent. C'est comme ça que les sociétés se développent. Donc si nos présidents ou nos dictateurs ne le comprennent pas, eh bien la rue va le leur rappeler. On n'arrête pas un peuple décidé avec des chars de combat, avec la brutalité. Sinon, Ben Ali serait au pouvoir, sinon Blaise serait au pouvoir. Et donc, il faut que les gens comprennent que quand le peuple est décidé, personne ne l'arrête. Et il a besoin de démocratie, personne ne pourra rien changer. C'est l'époque où il n'y a que la démocratie qui va triompher.
Une situation qui laisse quand même aujourd'hui 70 blessés et 3 morts selon les premiers bilans. Visiblement, le président va s'adresser à la nation dès qu'il va rentrer de Tanzanie. Un appel au calme est lancé. Une situation qui reste précaire et qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux à travers par exemple deux journalistes très impliqués, très on va dire spécialisés dans ces questions-là. Je pense à Sonia Rollet de Radio France Internationale qui a toujours été
formidable très, journaliste.
La région des Grands Lacs, le Rwanda, elle connaît ça par cœur. Sonia Rollet sur Twitter, c'est son compte, c'est son nom tout attaché, Sonia comme Sonia, puis Rollet, Rollet. Et comment ne pas oublier aussi Jean-Philippe Rémy du Monde, JP Rémy Y, Le Monde, tout attaché. Ils suivent en temps réel sur Twitter la situation sur place.
Et puis cette dernière minute de l'AFP, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, appelle urgemment toutes les parties à faire preuve de calme et de retenue. Il rappelle également à tous les dirigeants burundais la nécessité de préserver la paix et la stabilité dans un pays qui a tant souffert de précédents accès de violence. Merci Eric Valmire.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et direction le Japon maintenant pour découvrir un spectacle autour d'une technique de marionnette totalement oubliée. Elle s'appelle le Dogu Gaeshi et c'est un Américain, Basil Twist, qui l'a remise au goût du jour. Le spectacle fait un tabac dans le monde entier. Vous pourrez le voir à partir de demain à la Biennale de la Marionnette au Théâtre Mouffetard à Paris donc. Et Stéphane Capron, vous l'avez vu, vous, la semaine dernière au Festival Passage de Metz.
Et c'est un spectacle totalement magique, totalement bluffant. Basil Twist est tombé par hasard il y a une dizaine d'années sur un documentaire sur cette technique. Alors il a fait des recherches qui l'ont amené sur l'île d'Awaji. Il a fouillé dans la cave du musée des arts traditionnels et a retrouvé sous une épaisse couche de poussière des panneaux laissés à l'abandon. Il s'est donc mis en quête de reconstituer cette forme théâtrale qui est finalement assez simple. Elle consiste à ouvrir et fermer dans un petit théâtre de marionnettes des panneaux de papier de toutes les tailles.
Quand moi je suis allé en Japon pour faire des recherches, en fait je ne voyais pas de spectacle comme ça. J'ai fait des interviews avec des gens qui avaient vu dans leur enfance. C'est un hommage aux traditions, c'est pas une copie. Moi, je donne mes impressions de cette technique qui est surtout, c'est un changement de décor. Dans un spectacle de marionnettes, mais le changement de décor est devenu tellement populaire que c'est devenu un spectacle en elle-même, sans aucune narrative. C'est comme des feux d'artifice, des images qui s'enchaînent l'un après l'autre.
Avec énormément de panneaux, combien y a-t-il de panneaux dans ce spectacle?
Il y a 88 tableaux différents. Bon, chacun prend plusieurs panneaux. Alors, je ne compte pas le panneau, je compte le tableau. Et 88 en Japon, ça signifie un peu le bonheur, ça porte un sens en Japon.
Dokugaishi est un tourbillon hypnotique. Basil Twist s'est inspiré des images du peintre Hokusai. Il utilise aussi la technologie d'aujourd'hui avec des projections psychédéliques. Lorsqu'il a présenté le spectacle au Japon l'année dernière, le public n'en revenait pas.
Ils étaient fascinés par le spectacle, en fait, parce qu'il y a très peu de gens en Japon qui ont vu ça. Les portes qui s'ouvrent l'un après l'autre, c'est une image qu'on connaît en Japon. Ça, on le voit dans les publicités ou dans des films. Mais la plupart des gens n'ont pas vu un spectacle créé autour. Ils étaient surtout curieux pourquoi un Américain a fait ça. Bon, ils sont très polis aussi, les Japonaises. Mais dans le spectacle, il y a une séquence où je montre un film avec des vieilles dames âgées qui ont vu le spectacle, qui ont vu le Dokugaishi quand elles étaient jeunes. Elles sont venues voir le spectacle et elles étaient passionnées. Après, comme on fait visiter derrière scène, elles sont venues tout de suite derrière prendre les écrans, commencer à les faire bouger. Et j'étais tellement ému de voir cette connexion avec des gens qui avaient vraiment vu ça dans leur enfance, qui m'avaient parlé avec une telle passion que j'ai mis ça dans le spectacle. Et puis ils ont vu les résultats de mes recherches. C'était très, très émouvant.
La musicienne Yumiko Tanaka accompagne le spectacle au son de son shamisen, cet instrument de musique traditionnelle à cordes pincées utilisé dans le théâtre traditionnel japonais. Alors c'est un voyage totalement dépaysant, c'est fascinant, bref, c'est du jamais vu.
Merci Stéphane Capron. 18h52, le temps qu'il prenne son souffle et son essor. On retrouvera Arnaud Le Parmentier juste après ça. Mojikikai, 18h54.
Un jour dans le monde.
Qu'allez-vous dire?
Eureka, Syriza a déjà capitulé.
Ah, vous êtes content?
Ah, je suis heureux. Merci et pardon.
Sur France Inter.
L'édito d'Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Un spectre, hante l'Europe.
Oui Nicolas, mais à votre grand regret, je le vois bien, ce n'est pas le spectre du communisme, comme l'écrivait Marx en 1848, mais le spectre du Brexit.
Le Brexit.
Le Royaume-Uni risque de quitter l'Union européenne. Shocking. David Cameron a remporté haut la main les élections dans son pays. C'est la bonne nouvelle. A réformé brutalement. On regagne de la croissance et l'on remporte les élections. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le Premier ministre conservateur compte organiser un référendum sur la sortie de l'Europe de son pays d'ici à 2017. Qu'il nous soit permis de rire. Votez à votre guise, messieurs les Anglais, vous n'irez pas bien loin. La Grande-Bretagne a beau être une île, elle n'en est pas moins arrimée à l'Europe par la géographie, l'histoire et la réalité.
Et comme d'habitude avec vous, Arnaud, vous méprisez le droit des peuples à choisir leur destin. On vous a déjà vu le faire pour les Grecs.
Pas du tout, Nicolas.
Oh, menteur.
Les Anglais peuvent partir. Il suffit de voter par référendum, de le notifier à l'Union européenne. Hop! En 2 ans, le tour est joué. C'est ce que nous explique Jean-Claude Piris, ancien jurisconsulte du Conseil européen pour la Fondation Robert Schuman. Certes, mais quitter quoi ? Le Royaume-Uni n'est ni dans l'euro, ni dans Schengen, ni dans l'Europe judiciaire, ni dans l'Europe de la défense. Au fond, il se trouve là où rêve d'arriver un jour Marine Le Pen, un marché unique avec quelques politiques. Et surtout, pour aller où ? S'il quitte l'Union européenne unilatéralement, le Royaume-Uni se trouvera dans le vide intergalactique, réduit à un simple membre de l'Organisation mondiale du commerce. Il sera comme le Belize, le Bangladesh ou le Sultanat d'Oman. Catastrophe pour la City de Londres. Les garanties de l'OMC en matière de services financiers, premier secteur d'activité britannique, sont lilliputiennes. L'Angleterre, sans le libre-échange, ce n'est plus l'Angleterre.
Plaisanterie, Arnaud, puisque Londres aura malgré tout accès au grand marché européen, évidemment.
Pas du tout, Nicolas. Pour cela, il faut négocier avec les Européens et obtenir leur accord à l'unanimité. L'excellent Jean-Claude Piris a exploré toutes les hypothèses. 1. Le Royaume-Uni peut devenir membre de l'espace économique européen, comme l'Islande ou la Norvège. Mais l'affaire implique d'accepter toutes les règles du grand marché sans avoir le moindre mot à dire et continuer de payer des aides régionales pour la Pologne. L'intérêt est nul. Seconde option, négocier un statut à la Suisse, signer avec l'Union européenne autant d'accords que nécessaire. En réalité, ces accords ne concernent pas les services financiers. Inintéressant pour Londres. Troisième option, devenir comme la Turquie et conclure une union douanière. Las, cette option ne donne pas accès au marché intérieur européen.
Alors après Marx, Lénine, que faire ?
Il reste un rêve anglais. Négocier un accord à la carte qui permettrait à Londres de picorer dans les traités européens les politiques de son choix et de bouter hors de son île les travailleurs polonais. Mais c'est ouvrir la boîte à revendications des pays les plus eurosceptiques, danois et suédois, qui exigeront les mêmes avantages. David Cameron, je le prédis, pas grand-chose, car son référendum va se télescoper avec les élections de 2017 en France et en Allemagne. Il n'obtiendra pas plus de révolution que Lionel Jospin et François Hollande, qui avaient promis de renégocier en 97, en 2012, les règles trop allemandes de l'euro. On sait ce qu'il en est advenu, Nicolas, même si vous les avez cru. Il n'obtiendra pas non plus que les Grecs prisonniers de l'euro, car, comme le disait cette chère Margaret Thatcher, lointaine prédécesseur de David Cameron, « There is no alternative ».
Cette phrase que vous avez tatoué sur l'avant-bras droit, mon cher Arnaud Le Parmentier. Merci et bonsoir à Hélène Jouan qui se trouve non pas ici en studio, mais au lycée Voltaire à Paris.
Bonsoir Nicolas. Et oui, ce soir nous allons parler au téléphone sonne de l'inquiétude des jeunes face à leur avenir. Et plus intéressant, eh bien, ce sont justement les jeunes qui vont vous en parler, qui vont nous en parler, parce que vous avez raison. Nous sommes donc dans le 11e arrondissement.
Ça m'a l'air bien calme, hein, l'ambiance pour l'instant.
Je les ai fait taire, vous pensez bien.
Allez, on veut les entendre, on veut les entendre.
Alors, les élèves de seconde 7 qui sont là, Nicolas Demorand veut vous entendre. Est-ce
un
que vous êtes
bruit,
là
un peu de bruit. Voilà.
Voilà.
Ça,
la
c'est
preuve.
Une classe vivante.
Ils sont là et on va parler bien avec eux. Je vous l'ai dit, de leur inquiétude face à leur avenir. Et ils vont interroger leurs invités, la députée Aurélie Filippetti, l'essayiste Raphaël Glucksmann et le sociologue Camille Penim. On attend évidemment aussi vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Merci Hélène.